important de bien distinguer connaissance spéculative et connaissance pratique. La connaissance spéculative, vous voyez, c'est la philosophie première, c'est la métaphysique. La connaissance spéculative, c'est aussi ce qu'on appelle la philosophie de la nature et la philosophie du vivant. Tandis que la connaissance pratique, la philosophie pratique, c'est l'éthique, c'est la philosophie du facere, c'est la philosophie politique. Il y a trois aspects, trois développements d'une philosophie pratique qui sont très importants à bien saisir. La philosophie pratique, c'est une philosophie qui est ordonnée à l'action, à l'opération, qui est ordonnée à la réalisation. La connaissance est donc subordonnée par quelque chose qui finalise au-delà de la connaissance. Tandis que dans la connaissance dite spéculative, c'est une connaissance qui recherche la vérité, marquez qu'elle recherche toujours la vérité, mais elle recherche la vérité d'une façon beaucoup plus forte dans la connaissance spéculative, et c'est une connaissance qui a en elle-même sa propre finalité. C'est surtout ça la différence. Et je crois que du côté connaissance dite proprement spéculative, c'est-à-dire la métaphysique, on ne peut pas parler d'une métaphysique chrétienne. Saint Thomas fait cette distinction que je crois toujours vraie entre une sagesse philosophique, qui est la philosophie première et la métaphysique qui se termine dans une vision de sagesse et une vision contemplative, nous y reviendrons la fois prochaine, une sagesse dite de la doctrina sacra, c'est-à-dire une sagesse qui est élaborée à partir de la foi, ce qu'on appelle la théologie habituellement, et puis la sagesse don du Saint-Esprit. Saint Thomas distingue trois niveaux de sagesse. Et je crois que c'est très important de distinguer ces trois niveaux de sagesse. Saint Thomas ne parle pas d'une sagesse chrétienne philosophique. Non. Il parle d'une sagesse proprement philosophique que l'homme peut acquérir par la réflexion qu'il peut faire sur les réalités qu'il considère. Donc je ne crois pas, je ne vais pas débattre ça trop longuement, sauf si ça vous intéresse, on pourra y revenir, hein. Faut pas hésiter, parce que c'est des questions qui sont délicates, difficiles, et devant lesquelles, comme toujours quand les questions sont difficiles, on voit des opinions multiples et diverses. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une métaphysique chrétienne. Pour parler d'une métaphysique chrétienne, c'est toujours ce que je soulignais à Gilson, et Gilson ne m'a jamais répondu du reste là-dessus. Il reprenait autrement, en disant « c'est pas ça que je veux dire », il m'a dit « mais c'est ça que je voudrais savoir ». Je lui posais toujours la question « est-ce que, par la foi, nous avons une nouvelle conception de l'être ? Ou est-ce que la conception que nous avons de l'être provient tout simplement de notre expérience philosophique, du jugement d'existence, et à partir de là, une métaphysique peut s'élaborer, une philosophie première peut s'élaborer. Quand l'intelligence humaine découvre l'existence d'un être premier, je ne crois pas que nous avons une nouvelle conception de l'être. Nous avons un nouveau jugement d'existence. Nous affirmons qu'il existe nécessairement un être premier. Puis on essaie, dans la mesure du possible, de voir comment cet être premier existe, comment nous pouvons le contempler. Mais nous n'avons pas un nouveau concept d'être, au sens fort. Et par le fait même, il n'y a pas de nouveaux principes qui nous sont donnés par la foi. Le but de la foi, ce n'est pas de nous apporter de nouveaux principes métaphysiques. Le but de la foi, c'est de nous permettre de découvrir une nouvelle finalité et d'avoir un regard nouveau sur Dieu en ce qu'il est, en sa manière d'exister, en sa manière d'être. Je dis bien en sa manière d'être. Nous savons que Dieu est trine, il est trois dans l'unité. Ça, seule la foi me le dit. Mon intelligence humaine ne peut pas le saisir. Mon intelligence humaine s'arrête au seuil de la divinité en affirmant qu'il existe nécessairement un être premier. Je peux essayer de comprendre ce qu'est cet être premier, mais je ne pénètre pas à l'intérieur même de la vie de cet être premier. Nous le verrons encore une fois la fois prochaine, quand nous comparons sainteté et contemplation métaphysique. Mais ici, je souligne quelque chose que je crois très important à souligner, c'est que, de fait, on peut parler d'une philosophie chrétienne au niveau pratique, c'est-à-dire au niveau éthique. Au niveau éthique, il faut maintenir, et c'est ce que nous essayons de comprendre, nous devons maintenir une philosophie chrétienne. Il y a une éthique chrétienne. Alors comprenez bien, la difficulté est là, je l'ai déjà touché, mais j'y reviens parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'équivoque. Il y a une différence entre regarder une éthique chrétienne et une perspective de théologie à partir de la foi, qui est une théologie morale. Ce que fait saint Thomas, ce que toute la tradition a fait, et ce que nous continuons de faire, bien que la théologie morale aujourd'hui, elle a beaucoup de peine à voler, elle a du plomb dans les ailes, elle a beaucoup de peine de voler parce qu'elle se laisse influencer par des quantités de choses. Et alors on voit très bien, c'est un des aspects particulièrement difficiles. Je voyais à Fribourg, quand il s'agissait, et je ne sais pas pourquoi, tous les théologiens qui enseignaient la morale, ils restaient pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et ils avaient du plomb dans les ailes, ça c'était très net. Alors de temps en temps, ça déraillait complètement. On était obligé de leur dire, écoutez, non, il vaut mieux partir. Et puis quand on cherchait un remplaçant, impossible d'en trouver. C'est curieux. Il y a des domaines comme ça où on a de la peine à redécouvrir un vrai théologien de théologie morale. Et la théologie morale se fait à partir de la foi, alors que la philosophie chrétienne se fait à partir de l'expérience que nous avons. C'est pas tout à fait la même chose. On va essayer de traiter la question. C'est très délicat, hein, parce que très facilement on passe de l'un à l'autre. Et je crois qu'il faut maintenir la différence. Il y a une philosophie chrétienne éthique. Et comme vous pouvez parler d'un art chrétien, c'est pas encore la même chose. Mais vous pouvez parler d'un art chrétien, c'est bien évident. Et l'art chrétien n'est pas l'art religieux et n'est pas l'art sacré. Et il faut distinguer l'art sacré de l'art religieux et de l'art chrétien. Quand les dominicains avaient la revue Art Sacré, ils parlaient de l'art chrétien. Ils confondaient un petit peu. Au point de vue philosophique, ils auraient dû, avec plus de netteté, distinguer l'art chrétien, l'art religieux et l'art sacré. Et on comprend très bien que le philosophe peut parler de l'art chrétien en tant que philosophe. Et il peut essayer de comprendre ce que c'est. Eh bien, en tant que philosophe, je peux parler d'une éthique chrétienne. Et en tant que philosophe, parler de l'éthique chrétienne, c'est d'essayer de comprendre comment le Christ apporte à l'homme une nouvelle finalité, apporte un nouveau développement de l'homme. Alors, je ne le saisis pas à partir de la foi. Je sais qu'il y a là un mystère que je ne regarde que de l'extérieur, un petit peu à la manière dont Bergson parle des mystiques, vous voyez. Bergson parle des mystiques et il dit que la mystique chrétienne, c'est la mystique la plus parfaite. Il dit ça en tant que philosophe. Il ne dit pas ça du tout en tant que chrétien. Il dit ça en tant que philosophe, puisque de fait, quand il écrivait ça, il n'était pas encore pleinement et totalement chrétien. Il l'a été après. Mais à ce moment-là, il regardait cela comme un philosophe peut regarder un phénomène tout à fait particulier. Le philosophe peut regarder le Christ. Le philosophe a parfaitement le droit de regarder qu'au milieu de l'humanité, il y a eu un homme spécial, particulier, plus grand que Socrate. A été écrit de Socrate à Jésus, n'est-ce pas ? Eh bien, on voit très bien ce que ça veut dire, d'essayer de mettre un parallélisme entre Socrate et avec Jésus. Jésus apparaissait comme un homme qui avait une orientation, une finalité très particulière, un au-delà, je pourrais dire un surhomme, un au-delà de l'homme ordinaire. Et je peux le considérer, ce serait du reste très beau, ça a été fait, comme on peut regarder, c'est Madame Amadou qui fait cela, quand elle regarde l'Ancien Testament pour essayer de découvrir dans l'Ancien Testament une anthropologie religieuse. Et je peux très bien regarder l'Ancien Testament pour découvrir à travers l'Ancien Testament une anthropologie religieuse. Il y a une anthropologie religieuse qui m'est donnée dans l'Ancien Testament. Il y a une éthique religieuse qui m'est donnée dans l'Ancien Testament. Une éthique religieuse qui est particulièrement parfaite, comparativement aux autres traditions religieuses. Je peux très bien regarder diverses éthiques religieuses à travers les diverses traditions religieuses. Et je peux me poser la question, qu'est-ce qui finalise une éthique proprement chrétienne ? C'est la question que je me poserai ce soir. Et face à cette éthique chrétienne, je mettrai un parallèle avec ce qui finalise une éthique humaine et ce qui finalise une éthique religieuse. L'éthique humaine, ce sera ce soir, l'éthique religieuse, ce sera la fois prochaine. Qu'est-ce qui finalise une éthique chrétienne ? Qu'est-ce que Jésus apporte de nouveau au point de vue philosophique ? Voilà ce que je me pose la question. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau comme dimension proprement humaine. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors je dirais que le Christ apporte comme dimension nouvelle cette dimension des béatitudes évangéliques. Je peux écouter le discours sur la montagne en philosophe, si j'ai un esprit suffisamment ouvert, si je n'ai pas d'a priori. Le philosophe s'intéresse à tous les hommes. Si le philosophe ne s'intéresse pas à tous les hommes, ça prouve qu'il en a priori. Il doit s'intéresser à tous les hommes. Et il doit essayer d'écouter le discours de tous les hommes. C'est le propre du philosophe. Ne pas vouloir écouter ce discours, eh bien ce serait de fait supprimer sa dimension de philosophe. L'ami de la sagesse, celui qui essaie de découvrir si avec Jésus, il y a une nouvelle dimension humaine. Même si après coup, il dit cette dimension est très particulière, elle est très difficile à atteindre, il faut des secours particuliers, c'est très vrai, il peut très bien constater cela. Et il le fera après. Dans son jugement particulier sur ce que représente Jésus en tant qu'il est celui qui apparaît comme chef religieux. comme celui qui attire à lui des disciples. Jésus a voulu avoir tout de suite des disciples. Il a eu au moins les apôtres. Il a eu autour de lui un certain nombre de personnes qui l'ont suivi. Le résultat n'a peut-être pas été très grand quand on regarde le mystère de la croix. Mais quand je regarde la vie apostolique de Jésus, je vois quand même qu'il y avait des disciples autour de lui. Et je vois que ces disciples autour de lui, après la grande épreuve de la croix, se sont retrouvés. Et qu'il y a eu à partir de là une communauté qui s'est dite chrétienne. Et que cette communauté qui s'est dite chrétienne avait une dimension de recherche humaine particulière. Une dimension qui dépassait celle des philosophes grecs. Celle qui engageait quelque chose de très spécial. Qui faisait appel à une dimension d'amour qui dépassait tout ce qui était dans une attitude d'éthique proprement religieuse. Et je crois que c'est cela que nous devons essayer de comprendre. Il y a eu toute une période d'une éthique religieuse avec Moïse, avec la loi. La loi a comme première exigence l'adoration. Je sais très bien qu'on peut dire qu'au-delà de la loi, il y a les patriarches qui représentent quelque chose de très particulier, puisque ce sont des hommes de foi. Et que la foi telle qu'elle est présentée dans l'ancienne alliance, la foi représente quelque chose de plus que l'attitude proprement religieuse. L'attitude religieuse est une attitude très profonde du cœur de l'homme, dans sa recherche vers l'absolu, dans l'adoration, mais la foi quelque chose de plus. Et c'est ça qui est très étonnant, de voir que l'ancienne alliance a commencé par la foi. Et elle s'est structurée autour de la loi. Et je me demande si au fond le grand drame n'a pas été que la loi, à un moment donné, a comme étouffé la foi. On pourrait retrouver des choses analogues du reste, hein, au point de vue chrétien. Lorsque l'aspect moral devient plus important que ce que nous appelons les vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour. À ce moment-là, je crois qu'il y a comme un repli sur l'homme dans une dimension proprement éthique et que le dépassement de l'éthique ne se fait plus. Parce que je crois que c'est ça qui caractérise le mystère de Jésus comparativement à l'ancienne alliance qui se présentait avant tout comme un point de vue de la loi. Quand Jésus dit qu'il ne s'oppose pas à la loi, il n'est pas venu pour supprimer la loi, mais l'accomplir. Que veut dire cette affirmation de Jésus par rapport à ce que représente le point de vue de la loi qui commande en premier lieu une attitude d'adoration? Il est bien évident que Jésus ne supprime pas l'adoration. C'est dit explicitement dans l'enseignement que Jésus donne à la Samaritaine. Dieu est esprit. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et si je suis attentif à cette affirmation, je vois que Jésus insiste des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous savez très bien comment Jésus dit cela à la Samaritaine. La Samaritaine avait dans le fond de son cœur une vieille angoisse de sa jeunesse. Les Juifs disent qu'il faut adorer au temple et les Samaritains sur les hauts lieux. Où est la vérité? Vous voyez, c'est toujours la querelle liturgique, hein, c'est très curieux. C'est ça qu'on retient le mieux. Et c'est vrai, c'était une querelle liturgique. C'était une querelle liturgique que la Samaritaine avait connue dans sa jeunesse, et ça lui avait laissé quelque chose d'un petit peu terrible. Elle n'avait pas pu résoudre cela. Et dès qu'elle découvre que Jésus est un prophète, immédiatement, ça revient à cette grande question. Faut-il adorer à Jérusalem ou faut-il adorer sur les hauts lieux? Et en face de cela, Jésus répond en allant plus loin. C'est du reste très beau. Jésus ne revient pas sur le litige. C'est très étonnant. Il ne revient pas sur le lieu en disant « Mais voyez bien, les Samaritains à ce moment-là n'ont pas compris. » Il dit « Le salut vient des Juifs. » Ça, c'est vrai. Et donc, il reconnaît qu'il y a là quelque chose qui peut aller plus loin. Mais Jésus ne dit pas « c'est au temple ». Non. Jésus dit « Dieu est esprit, il veut des adorateurs en esprit, en vérité ». Et je crois que quand Jésus dit cela, il veut nous faire comprendre que le mystère de l'adoration n'est pas premièrement un mystère liturgique. Ce ne sont pas des gestes qui commandent en premier lieu le mystère de l'adoration. Ce qui commande l'adoration en premier lieu, c'est une attitude intérieure. Des adorateurs en esprit et en vérité. Eh bien, les adorateurs en esprit et en vérité, c'est comprendre que Dieu, parce qu'il est esprit, ne peut être atteint que de l'intérieur. Dieu n'est pas atteint de l'extérieur comme nous atteignons les hommes de l'extérieur par des paroles et nos gestes. C'est vrai, pour avoir un contact avec les hommes, c'est toujours de l'extérieur qu'on les atteint. Et donc on les atteint par la parole et par le point de vue du geste. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de Dieu, on l'atteint de l'intérieur, les adorateurs en esprit, en vérité. C'est au plus intime de notre volonté, au plus intime de notre cœur, que nous pouvons avoir cette rencontre. C'est cela que Jésus veut montrer. Il ne dit pas du tout là, vous voyez, qu'il y a quelque chose de nouveau. Il veut comme reprendre quelque chose qui peut-être a été mal compris, parce que on prend les choses souvent d'une façon trop matérielle. Jésus veut une nouvelle intériorité. Et chaque fois qu'il fait la comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle, c'est toujours pour rappeler une nouvelle intériorité. C'est pour nous faire comprendre que ce qu'il vient apporter, ce n'est pas de nouveaux gestes, de nouvelles paroles, c'est une attitude intérieure nouvelle. Ce que les prophètes eux-mêmes avaient déjà dit, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est donc quelque chose qui doit être repris de l'intérieur. C'est la première chose que Jésus veut faire comprendre, c'est qu'il s'agit de tout reprendre de l'intérieur. Adorateur en esprit et en vérité. Et lorsque Jésus est en face de Nicodème, donc en face d'un théologien, en face d'un docteur de la loi, qui connaît parfaitement l'Écriture, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il faut naître de nouveau. Il faut donc dépasser tout ce qu'on voit de l'extérieur et naître de nouveau de l'esprit et de l'eau. C'est une nouvelle naissance. C'est bien cela que Jésus veut faire comprendre comparativement à l'ancienne alliance. Il veut nous faire comprendre qu'il y a une nouvelle dimension devant laquelle on est un peu resté à l'extérieur. On n'a pas été assez loin dans l'adoration. Le premier commandement, c'est bien l'adoration, mais il y a diverses manières d'adorer. Il y a une manière purement extérieure, et il y a une manière beaucoup plus profonde qui exige une conversion profonde du cœur et de l'intelligence. Et c'est cette conversion du cœur et de l'intelligence qui est cette naissance nouvelle, cette naissance sous le souffle de l'Esprit. C'est cela que Jésus apporte. Il nous dit qu'il vient achever. Alors c'est là où il faut essayer aussi de bien saisir. L'achèvement, ça peut se comprendre de deux manières. Hein. Simplement qu'il va un peu plus loin. Et donc, c'est une continuité. Ou au contraire, ça peut se comprendre comme un renouveau radical qui fait que tout est repris dans une nouvelle lumière et dans un nouvel amour. Et je crois que c'est cela que Jésus veut nous faire comprendre. Il n'est pas seulement celui qui vient achever l'éthique religieuse. Il est celui qui apporte une nouvelle dimension dans notre relation avec Dieu et dans notre relation vis-à-vis du prochain. Il vient nous apporter une nouvelle relation par rapport à Dieu. C'était déjà présent dans l'ancienne alliance, mais ça avait été compris d'une manière trop extérieure. Et c'est pour ça que Jésus reprend tout en disant que la loi et les prophètes sont entièrement repris, achevé dans le nouveau commandement. Et ce nouveau commandement que Jésus nous apporte, c'est aimer Dieu d'une manière telle qu'il faut que tout nous-mêmes soyons offerts et donnés. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'était déjà présent dans l'Ancienne Alliance. Mais ça avait été compris d'une manière extérieure. J'allais dire, ça avait été pris et ça avait été ramené à un aspect religieux. Jésus veut nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus que cette attitude religieuse. C'est l'attitude du Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Et c'est de cette manière que Jésus veut nous faire comprendre cette nouvelle relation que nous avons avec Dieu. Dieu est notre Père. Il n'est pas seulement le Créateur, il l'est. L'adoration regarde le Créateur. C'est parce que Dieu est notre Créateur que nous l'adorons. C'est parce que Dieu nous a communiqué notre être, notre vie, notre capacité de connaître et d'aimer, que nous l'adorons. Et nous reconnaissons par là cette dépendance radicale et totale à l'égard de notre Créateur. Jésus veut nous faire comprendre qu'il y a plus, qu'il est notre Père. C'est-à-dire qu'il nous appelle à vivre la même vie que lui. Et ce précepte nouveau d'amour nous fait comprendre qu'entre nous et le Père, il y a un lien de vie, comme un père à l'égard de son fils. Et que cette vie est une vie de lumière et d'amour. Et que c'est ce que Jésus vient apporter, son lien d'amour avec le Père, il veut qu'il se prolonge dans notre cœur. Il veut que nous soyons vis-à-vis de Dieu, notre Créateur, des fils bien-aimés en qui le Père puisse mettre toutes ses complaisances. C'est donc bien ce lien d'amour qui va renouveler, achever et, j'allais dire, radicalement tout reprendre. C'est quelque chose de totalement nouveau que Jésus apporte. C'est ce lien d'amour, ce lien de filiation avec Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu parce que nous sommes vraiment nés à une vie qui n'est plus seulement la vie humaine, une vie spirituelle ou une vie religieuse. Nous sommes nés à quelque chose de beaucoup plus profond. Nous sommes nés à une vie d'enfants bien-aimés, de fils bien-aimés à l'égard de Dieu. C'est cela que Jésus nous enseigne de la manière la plus nette. Et je crois que tout l'évangile de Saint Jean est là pour nous montrer cela, pour nous montrer cette filiation d'amour. Jésus va plus loin et nous montre que ce lien d'amour avec le Père se prolonge à l'égard de ceux qui sont proches de nous. Et c'est là où nous découvrons ce qu'il y a de si nouveau dans ce que représente l'éthique chrétienne. C'est que l'amour que nous avons pour le Père, cet amour qui nous est donné par le Christ, dont le Christ est la source, c'est lui qui nous communique cet amour. Cet amour va se prolonger vis-à-vis du regard que nous avons vis-à-vis de ceux qui sont proches de nous. Nous devons aimer du même amour Dieu et le prochain. Ce n'est pas deux amours distincts, c'est le même amour. C'est le même amour par où nous regardons Dieu comme Père et par où nous regardons ceux qui sont proches de nous, qui sont notre prochain. Et nous devons les aimer du même amour, c'est-à-dire les aimer comme Jésus lui-même les aime, comme le Père lui-même les aime. Nous devons les regarder dans la même lumière et être capables de les aimer du même amour. Je crois que c'est cela qui caractérise l'éthique chrétienne dans ce qu'elle a d'unique, qui met l'éthique chrétienne au-delà de toute tradition religieuse, qui montre que ce n'est plus une nouvelle religion, c'est beaucoup plus, c'est une nouvelle vie qui transforme notre cœur, puisque c'est reçu au plus intime de nous-mêmes comme une nouvelle vie, une nouvelle naissance, et qui fait que nous entrons dans une relation d'amour et d'unité de vie avec Dieu tellement profonde que nous devenons nous-mêmes source d'amour. Fameux enseignement de Jésus à propos justement de l'eau vive. On devient source jaillissante pour la vie éternelle. Nous devenons nous-mêmes source d'amour pour le prochain, d'un amour qui ne provient pas uniquement de nous, d'un amour qui provient de notre Père, qui provient de Jésus, et qui nous saisit d'une manière telle que nous coopérons à cet amour en étant capable de nous donner totalement à notre prochain, étant capable de l'aimer vraiment, c'est-à-dire d'être avec Jésus ceux qui seront capables vraiment de les aimer, de les sauver. C'est le mystère du Christ qui continue à travers chaque chrétien. La mission du Christ s'achève et se continue à travers tous ceux qui sont les disciples du Christ. Jésus ne veut pas être le seul à nous sauver, à sauver les hommes, mais il veut notre coopération. Vous voyez, il y aurait un parallélisme qui serait intéressant à voir, comment Dieu comme créateur demande à l'homme d'achever son œuvre de créateur, dominer l'univers. C'est bien Dieu qui veut que l'homme continue, non pas la création, mais d'achever l'œuvre de la création. Et par tout son travail et par tout l'art, d'achever l'œuvre de la création. Eh bien, il y a quelque chose de semblable dans le mystère de la rédemption. Jésus veut nous sauver, mais Jésus veut en même temps que cette œuvre de salut, cette œuvre d'amour, se continue à travers nous. Et que nous soyons chacun d'entre nous, là où nous sommes, des faiseurs de paix. Que nous soyons là où nous sommes, des sources de charité et de miséricorde, des sources d'amour. Que nous soyons là où nous sommes par les béatitudes évangéliques, que nous soyons, pour tous ceux qui sont proches de nous, des témoins vivants du Christ. Et quand je dis témoins vivants du Christ, c'est-à-dire ceux qui vivent le mystère même de Jésus et qui continuent de le vivre avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand saint Paul dit cela, je crois qu'il traduit parfaitement le désir intime du cœur du Christ. Jésus veut qu'entre lui et nous, ce ne soient plus des liens uniquement de serviteurs, mais des liens d'amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Au niveau de l'adoration, au niveau religieux, on est des serviteurs de Dieu. Au niveau de la charité, de l'agapé, au niveau de ce que représentent les vertus théologales, de foi, d'espérance et d'amour, alors il y a une amitié au sens très fort. Or, le propre de l'amitié, c'est que l'ami fait la même œuvre que son ami. Tant que l'ami ne fait pas la même œuvre que son ami, il n'est pas au sens strict ami. Au serviteur, on demande autre chose. On ne demande pas de faire la même œuvre que ce qui nous tient le plus à cœur. Tandis qu'à l'ami, on communique ses secrets, et en communiquant ses secrets à l'ami, on lui demande de pouvoir compléter et achever ce qui, dans notre cœur, est le plus précieux. C'est le propre de l'ami. Alors nous trouvons dans le mystère du Christ, ce lien nouveau d'amitié avec Dieu, qui fait que ce que Jésus lui-même a réalisé, nous devons comprendre que c'est ce que nous-mêmes nous devons réaliser. La mission du Christ continue dans tous ceux qui sont les membres du Christ. Et cette mission qui se continue dans les membres du Christ, c'est le mystère de la charité fraternelle qui doit se continuer. Et cette charité fraternelle doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire un don de toute notre vie pour le prochain. Et ce don de toute notre vie pour le prochain doit impliquer d'aimer même ses ennemis. Ce qui, de fait, a quelque chose de tout à fait nouveau. Nous n'aimons pas l'ennemi comme ennemi, c'est impossible. Nous aimons dans l'ennemi l'homme qui est capable d'être aimé et que nous devons aimer comme Dieu lui-même l'aime. C'est ce qui caractérise, je crois, cette nouvelle alliance dans le Christ. Et l'éthique chrétienne, si nous la regardons attentivement, indépendamment, encore une fois, de simplement point de vue philosophique, Nous voyons que c'est cela qui caractérise le mystère du Christ et qu'il le proclame pour nous. Vous voyez comme c'est différent de Socrate. Quand on dit de Socrate à Jésus, on pourrait montrer que l'idéal de Socrate est très beau, il est très grand, c'est une fidélité à la voix intérieure. Et Socrate ne proclame pas que l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain est le même. Socrate reste un homme religieux. Et je crois que ce qui caractérise Socrate, c'est justement d'être un homme religieux qui tend vers une contemplation. Mais c'est un homme religieux. Et l'homme religieux peut tendre vers la contemplation. Tandis que ce qui caractérise l'éthique chrétienne, c'est d'être avant tout et en premier lieu une éthique qui tend vers la sainteté. Et la sainteté, c'est un mystère d'amour. C'est l'amour qui doit tout prendre. C'est l'amour qui doit, de fait, transformer le cœur de l'homme pour que Dieu soit regardé en premier lieu et que le prochain soit regardé dans la même lumière que Dieu. Ce qui caractérise donc l'éthique chrétienne, c'est de tendre à la sainteté. Sainteté dans l'ordre de l'amour, c'est-à-dire une plénitude d'amour. La sainteté, vous le savez bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire à la fois une exigence de limpidité et de pureté et une exigence de don total de tout nous-mêmes. C'est-à-dire une exigence d'un amour victorieux de tout égoïsme. La limpidité du cœur provient de l'amour et le don de tout nous-mêmes provient de l'amour. C'est la victoire de l'amour à l'égard de tout ce qui n'est pas l'amour. Je crois que c'est ça qui est le propre de la sainteté. C'est cette victoire de l'amour à l'égard de tout ce qui n'est pas l'amour. Ce qui permet de comprendre cet épanouissement plénier de la volonté par un amour surabondant. Et que cet amour surabondant à l'égard de Dieu fait de nous des sources d'amour à l'égard de ceux qui sont proches de nous. C'est pour ça que la sainteté regarde Dieu et regarde le prochain. Il n'y a pas de sainteté chrétienne sans la charité fraternelle, sans être source d'amour à l'égard de ceux qui sont proches de nous. Et de les aimer comme Dieu les aime, c'est-à-dire de les porter dans un acte de miséricorde et dans un acte d'amour, d'unité d'amour, pour vivre avec eux le même mystère de sainteté. Si maintenant je fais la comparaison avec ce qui finalise l'éthique humaine, donc le premier niveau de l'éthique, c'est-à-dire l'éthique qui regarde l'amour d'amitié et qui se noue autour de l'amour d'amitié. Je crois qu'il n'y a pas d'éthique sans amour, au sens très fort. L'éthique ne peut pas se fonder sur le devoir. Elle va beaucoup plus loin. Et elle doit se fonder sur un lien d'amour à l'égard d'une personne humaine découvrant une autre personne humaine. Et c'est pour ça que l'éthique humaine est au niveau de cette relation de l'homme à l'égard de l'homme. De l'homme qui découvre dans l'homme son bien. C'est-à-dire qui découvre dans l'homme quelqu'un qui est capable de l'attirer, de susciter en lui un amour radical, un amour spirituel, mais un amour en même temps qui implique tout le point de vue de la sensibilité, puisque c'est la personne humaine qu'on aime dans tout ce qu'elle est. Dans la relation d'amour-d'amitié, c'est vraiment une relation humaine d'une personne humaine à l'égard d'une autre personne humaine. Et c'est à l'égard de cet amour d'amitié que la personne humaine se révèle à elle-même. Et donc l'éthique proprement humaine, elle est au niveau de l'amour d'amitié et elle est finalisée par l'amour d'amitié. Je crois que c'est le point de départ et le terme, si on essaie de comprendre ce que représente cette responsabilité, la naissance de la responsabilité en nous. Il ne peut y avoir de responsabilité qu'à partir de ce lien. Et c'est dans ce lien d'amour d'amitié que nous découvrons ce qu'est la responsabilité. partir de là que nous comprenons ce que représente notre finalité. La finalité de l'homme se découvre à l'intérieur de l'amour d'amitié. Alors vous voyez la comparaison que nous pouvons faire entre ce que représente l'éthique humaine et l'éthique chrétienne. L'éthique humaine se noue autour de l'amour d'amitié, au-delà de la justice. La justice n'est pas une finalité de l'éthique humaine. Ce n'est pas suffisant. La finalité n'est pas autour des vertus. Et la justice est une vertu. Il faut aller plus loin. Et il faut découvrir la personne humaine dans son absolu de personne humaine. Il faut découvrir la personne humaine en tant qu'elle est mon bien. Toute la différence qui existe entre l'éthique humaine et l'éthique chrétienne, c'est donc la comparaison qu'on devrait faire entre l'amitié humaine et le mystère de la charité fraternelle. Au sens très fort, quelle différence y a-t-il entre les deux? Et alors à ce moment-là, nous voyons bien la distinction entre les deux. Il n'y a pas d'opposition. C'est absolument impossible qu'il y ait une opposition. Si nous comprenons bien ce que représente le point de vue de la charité fraternelle, si nous comprenons bien le mystère du Christ, tout ce que le Christ apporte est un dépassement de la personne humaine, c'est sûr, mais n'est pas contre la personne humaine. L'exigence de la charité, de l'agapé, n'est pas contre l'amour d'amitié, mais il est comme un dépassement qui est différent du reste, de celui qui existe par rapport à l'éthique religieuse ou par rapport à la loi de l'ancienne alliance. Ce n'est pas le même dépassement, c'est sûr. Mais des deux côtés, c'est un dépassement. Et quand je dis dépassement, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement une complémentarité, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Parce que c'est une reprise radicale de tout. Qu'est-ce qui caractérise l'amour d'amitié? Nous l'avons vu longuement. Parce que c'est quand même important de réfléchir sur ce que représente ce point de départ par où nous pouvons essayer de redécouvrir dans l'homme une dimension par où l'homme se dépasse. Je crois que c'est ça qui caractérise l'amour d'amitié. Vous voyez, dans la justice, on ne se dépasse pas. Tandis que dans l'amour d'amitié, il y a un dépassement. Et c'est vrai, dans les connaissances humaines, on ne se dépasse pas. On demeure dans une certaine immanence. C'est tout simplement un développement, c'est très bien, on se développe. On est de plus en plus soi-même, mais tout se ramène à nous. Tandis qu'au contraire, dans l'amour d'amitié, il y a un véritable dépassement. Parce qu'on considère l'autre, l'ami, comme notre bien. Autrement dit, on accepte profondément ce qu'est l'amour dans ce qu'il a de plus profond et de plus spirituel. Or, le propre de l'amour, c'est justement de tendre vers l'autre dans un don total. L'amour est extatique, il fait sortir de soi. On ne peut pas dire que la justice est extatique. N'est-ce pas? Elle respecte l'ordre et elle respecte l'autre. Tandis que l'amour fait sortir de soi et nous permet de nous dépasser, d'aller au-delà de nos connaissances et de vouloir retrouver l'autre dans ce qu'il a de plus profond. On le respecte, c'est bien évident, mais on l'aime. C'est pas la même chose. Et donc, il y a le souci d'être attiré par lui. Quand on aime, on est délogé de ses propres limites pour rejoindre l'autre. Et pour rejoindre l'autre tel qu'il est. Parce que c'est notre bien qui justement est capable de nous attirer et de nous prendre, et donc nous l'aimons dans un amour spirituel qui implique un don. Nous voulons l'aimer, et dans cette volonté d'aimer, il y a justement ce dépassement profond. Donc, déjà l'amour d'amitié, déjà l'éthique au niveau proprement humain, implique un dépassement de la personne pour rejoindre l'autre. Et pour faire comprendre que la perfection de l'homme ne se trouve pas dans l'homme, mais comme au-delà de l'individu. C'est bien l'homme qu'on aime dans l'autre, mais c'est l'autre en tant qu'il est une personne. En tant qu'il est mon bien. Et donc, il y a déjà dans l'amour d'amitié cette exigence profonde de l'amour spirituel qui exige un dépassement. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'amour d'amitié qui finalise l'éthique humaine va être comme une disposition merveilleuse à ce que représente l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne va de fait permettre à cet amour d'amitié d'atteindre une nouvelle dimension. Donc, à cet amour d'amitié d'aller plus loin tout en demeurant encore un amour d'amitié. C'est pour ça que je peux dire que l'amour d'amitié est une disposition vers la sainteté chrétienne. Et c'est en ce sens-là que je peux dire que cette exigence de la sainteté ne s'oppose en rien avec ce qu'il y a de plus humain en moi. Parce que ce qu'il y a de plus humain en moi, c'est mon dépassement en rejoignant l'autre et en l'aimant. Qu'apporte de nouveau l'amour d'amitié au niveau de la charité fraternelle, au niveau du mystère de l'agapé? C'est que j'aime l'autre dans la lumière du Christ. J'aime l'autre comme le Christ lui-même l'aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est bien de cette manière que la charité fraternelle est exprimée de la manière ultime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jésus dit cela avant la croix. Il nous dit cela après l'institution de l'Eucharistie. Et donc au moment précis où il se donne lui-même pleinement et totalement. Alors, nous comprenons que la charité fraternelle apporte cette nouvelle dimension. C'est que c'est dans la lumière du Christ que nous devons regarder l'autre. Nous l'aimons pour lui-même, parce que Jésus l'aime vraiment pour lui-même. Chacun d'entre nous, nous sommes aimés d'un amour unique par le Christ. Et Jésus nous aime pour nous, parce que nous ne pouvons pas lui apporter grand-chose. Donc il nous aime vraiment pour nous, et nous aime vraiment dans une gratuité absolue. Et c'est cette note de gratuité absolue qui va caractériser, en premier lieu, la charité chrétienne. C'est déjà vrai dans l'amour humain, et dans l'amour d'amitié humaine. L'amour d'amitié humaine implique la gratuité. Quand vous aimez quelqu'un uniquement parce qu'il vous rend des services, ça ne va pas très loin. On appelle ça un amour d'amitié utilitaire. Hein, et c'est alors beaucoup plus proche d'une attitude de justice, le fort en thème qui s'unit au fort en version, vous savez bien. Alors on sait très bien. Alors ça va un certain temps. Mais quand il n'y a plus d'examen, ça ne sert plus à rien. Et bien de fait, quand on n'a plus besoin de lui, on le laisse tomber. Parce que l'amour d'amitié était uniquement au niveau utilitaire. Et donc on ne découvrait pas l'autre pleinement et totalement comme un ami, comme une personne. Donc, la gratuité est déjà vraie, mais c'est une gratuité qui a une note infinie dans l'amour divin, puisque c'est celle de Jésus par rapport à nous. Nous devons aimer l'autre comme Jésus l'aime, comme Jésus nous aime, et il a donné sa vie pour nous. Nous devons aimer l'autre jusque-là, c'est-à-dire de le laisser passer devant. Et nous devons l'aimer comme le Christ l'aime, c'est-à-dire l'aimer de cet amour divin qui fait que Jésus nous offre au Père, pour que nous soyons des fils bien-aimés du Père. Alors on voit tout de suite l'objection, du moins je crois que vous la sentez très profondément, c'est que lorsqu'il s'agit de l'amour d'amitié, au point de vue humain, qu'est-ce qui est au cœur de l'amour d'amitié? C'est le choix personnel. Et on dit que c'est ça qui fait le point de vue essentiel de l'amour d'amitié. Quand on choisit un ami, je t'ai choisi de préférence à tous les autres. Et on souligne de préférence à tous les autres. Et c'est toi que j'aime d'un amour unique. Ce qu'il y a de très gênant, philosophiquement parlant, dans la charité divine, c'est que la charité divine fait qu'on aime tout le monde. Vous savez bien la vieille question du philosophe qui se posait en disant « Vaut-il mieux aimer un seul ami ou en aimer beaucoup ?» Parce que si j'en aime beaucoup, je ne pourrais pas l'aimer avec la même intensité. Si j'en aime qu'un, je peux l'aimer avec une très grande intensité puisque je peux être entièrement pour lui. Tandis que s'ils sont nombreux, non, ça ne va plus. Alors, est-ce que nous n'allons pas avoir de fait cette diminution dans la charité fraternelle? Jésus apporte un nouveau regard, mais ce nouveau regard fait qu'on ne doit exclure personne, il faut même aimer ses ennemis. Et puis ce nouveau regard fait que ce n'est plus nous qui choisissons, c'est le Christ qui choisit pour nous. Alors, est-ce que de fait, par là, nous n'allons pas supprimer à la charité fraternelle ce qui caractérise le véritable amour d'amitié? Et ça, nous ressentons tous ça. Dans notre psychologie, nous le ressentons très fort. C'est tout à fait différent d'aimer un ami que nous avons choisi, quelqu'un que nous aimons. Ou bien, la charité fraternelle, très bien, vous savez. Quand on assiste à l'Eucharistie et qu'on nous dit de dire à son voisin la paix, oui, très bien, on lui souhaite, mais c'est pas la même chose que quand on voit un ami qu'on aime profondément. Ah, comme je suis heureux de te voir, c'est merveilleux, c'est étonnant. Non, oui, oui, vous y croyez, très bien, mais c'est pas commode. Et c'est vrai, c'est pas commode. Alors là, on touche vraiment ce qui caractérise cette charité fraternelle, c'est que c'est vrai qu'au niveau de notre psychologie humaine, l'amour d'amitié est beaucoup plus palpable et visible. Nous le ressentons. Tandis que la charité fraternelle est un mystère vécu dans la foi. Il peut, à certains moments, être vécu avec une très grande intensité. Si l'Esprit Saint nous donne justement quelque chose qui nous permet d'entrer beaucoup plus profondément dans ce mystère de charité fraternelle, sous le don de piété, sous le don de sagesse. Alors nous pouvons avoir un exercice divin de la charité fraternelle qui nous permet de découvrir que nous regardons celui qui est proche de nous dans une profondeur unique. Et nous le regardons dans une profondeur unique, c'est la profondeur du cœur du Christ. Et que c'est le cœur de Jésus qui agrandit notre cœur. Et qu'à ce moment-là, cet amour que nous avons pour le prochain n'est pas du tout un amour tout simplement de l'extérieur, un amour qui est pour tout le monde. Non. Nous devons découvrir dans la charité fraternelle ce qu'il y a d'unique et de personnel pour chacun, pour que cette charité fraternelle soit pleinement incarnée. Tant qu'elle n'est pas pleinement incarnée, elle risque toujours d'être quelque chose d'un peu extérieur. Et ça, c'est sûr. Mais lorsqu'elle est pleinement incarnée, et que c'est vraiment le mystère de Jésus qui s'empare de notre cœur, et qui fait que nous aimons en lui, par lui, avec lui, alors à ce moment-là, nous comprenons que l'amour du Christ pour notre frère, pour celui que la Providence a mis tout proche de nous, va infiniment plus loin, parce que c'est un amour divin, c'est un amour substantiel divin, qui fait que nous sommes tout entiers relatifs, comme Jésus à lui, et nous devons aller jusqu'au bout de ce don, comme Jésus lui-même. Donner notre vie pour le prochain, donner notre vie pour celui qui est proche de nous, et que la multiplicité ou l'extension de cette charité fraternelle ne diminue en rien, parce que c'est le mystère de Dieu qui se communique à nous, et que c'est le propre de Dieu de faire que Dieu peut aimer tous avec une intensité unique. Alors évidemment, ça nous dépasse complètement. Au niveau psychologique, ça nous dépasse complètement. Mais nous croyons à ce mystère et nous le vivons. Alors c'est là où l'éthique chrétienne, vue, vous voyez, du point de vue philosophique, doit reconnaître qu'il y a un mystère qui ne peut être vécu que de l'intérieur. Au point de vue philosophique, je ne peux pas expliquer. Je dis, c'est quelque chose de divin qui dépasse l'homme. C'est quelque chose de surhumain. C'est quelque chose qui impliquerait justement que l'homme, et qui implique que l'homme reçoive une dimension nouvelle, qu'il ne peut pas par lui-même réaliser cela. Je ne peux pas par mes propres forces réaliser le mystère de la charité fraternelle. Le mystère de la charité fraternelle me dépasse complètement. Au point de vue philosophie chrétienne, je dois souligner cela, que là, il y a un dépassement complet de la volonté de l'homme, et que ce dépassement ne peut se faire que par une nouvelle vie, une surabondance de lumière et d'amour, qui ne vient pas de moi, et qui vient de celui que je considère comme l'envoyé de Dieu pour moi. C'est-à-dire le Christ. Je m'arrête là. La fois prochaine, nous essaierons de comprendre comment la contemplation philosophique demeure d'une certaine manière à l'intérieur de l'éthique chrétienne, qu'elle n'est pas supprimée, mais qu'elle est dépassée, elle aussi, par l'amour. Parce que je crois qu'il faut voir ces deux grands dépassements. Et ces deux grands dépassements se font dans l'ordre surnaturel par le Christ.